ou quelqu'un que vous connaissez étudier une nouvelle langue? Le concours national des langues SBS 2018 est ouvert jusqu'au 18 novembre. Pour plus d'informations, rendez-vous sur sbs.com.au/nlc18. Et notre rubrique du samedi, c'est arrivé ce jour-là, et c'est arrivé un 10 novembre, comme aujourd'hui, le 10 novembre 1982, la mort de Léonid Brejnev, qui était alors à la tête de l'Union soviétique. Nous revenons sur cet événement avec les archives de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel.
Nous avons la profonde douleur de faire part au parti et à tout le peuple soviétique de la mort subite de Léonid Ilitch Brejnev. C'est donc ainsi que la population soviétique a été informée ce matin à 9h heure de Paris de la mort de son chef, Léonid Ilitch Brejnev, décédé de mort subite à l'âge de 75 ans hier.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce journal sera une édition spéciale consacrée pour l'essentiel à la mort du numéro 1 soviétique Léonid Brejnev et à ses conséquences.
Il était âgé de 75 ans, Léonid Brejnev, au pouvoir alors en URSS, en Union soviétique, depuis 18 ans. Nous allons l'entendre, il a dirigé l'Empire soviétique durant ces années de guerre froide, la guerre à distance avec le bloc de l'Ouest, les États-Unis, une volonté de détente, stopper l'escalade entre les deux géants, certes, mais la guerre froide tout de même. La nouvelle de sa mort est arrivée avec 24 heures de retard. Il est mort le 10 novembre 1982, mais ce n'est qu'au bout de 24 heures, effectivement, que les dirigeants soviétiques l'ont annoncé. Léonid Brejnev, qui a pris les rênes du Parti communiste de l'Union soviétique en 1964, après avoir évincé Nikita Khrouchtchev, qui était au pouvoir, lui, depuis 11 ans.
En fait, on le connaît mal encore, mais en octobre 1964, à 57 ans, c'est l'ascension fulgurante. Il devient le premier secrétaire du parti, le numéro 1 du régime, celui vers qui convergent les regards et les acclamations lors des grandes manifestations de la Place Rouge. Son pouvoir se renforce d'année en année, devient de plus en plus personnel. Et de ce pouvoir, il fait d'abord, dans les années 60 et 70, un usage que les Occidentaux apprécient, puisqu'il se présente comme l'homme de la détente.
Un homme méconnu au départ, Léonid Brejnev, né en Ukraine en 1906, un homme du Sud qui a rapidement occupé des responsabilités au sein du Parti communiste. Il fait partie de cette génération de jeunes communistes qui ont échappé aux grandes purges lancées par Joseph Staline dans les années 30. Il a été enrôlé dans l'armée rouge comme commissaire politique durant la Seconde Guerre mondiale, avec très vite de hautes responsabilités sur le front sud notamment. Ensuite, après la guerre, il continue son ascension dans l'ombre de Nikita Khrouchtchev, son mentor. Il le soutient, il en est proche, mais il prend part au complot qui écarta Khrouchtchev du pouvoir et qui le porta, lui, Léonid Brejnev, à la tête de l'Union soviétique.
1964, après avoir évincé Nikita Khrouchtchev, Léonid Brejnev devient premier secrétaire du Parti communiste soviétique. En 1966, il se fait nommer secrétaire général, un titre que seul Staline a porté, Staline qui avait lui-même écarté Léonid Brejnev du pouvoir. 1968, premier exemple de la doctrine Brejnev sur la souveraineté limitée. Le numéro 1 soviétique se déplace en personne à Prague, flanqué de tout le Politburo et de plusieurs responsables du pacte de Varsovie. Peu de temps après, il envoie ses chars. Il n'y aura pas de voix tchécoslovaque du communisme. Brejnev a alors 62 ans. 1973, très discret sur la scène européenne, les soviétiques posent des jalons dans le tiers-monde. Brejnev fait plusieurs longs voyages cette année-là, dont un en Inde. Autre axe de sa politique étrangère, la détente Est-Ouest, avec un voyage en Allemagne fédérale où il rencontre le chancelier Willy Brandt. Léonid Brejnev tient à avoir de bonnes relations avec l'Occident capitaliste. Après avoir reçu le président Nixon en 72, il va lui-même aux États-Unis en 73. Il signe avec Nixon un accord sur la prévention d'une guerre nucléaire.
Ces échanges avec les États-Unis, ces rencontres directes avec Richard Nixon marquent ce que l'on appelle la détente. Après les crispations extrêmes du début des années 60, la construction du mur de Berlin, l'Europe coupée en deux, la crise des missiles de Cuba, quand Américains et Soviétiques jouaient à se faire peur au risque de faire basculer le monde dans un chaos nucléaire. Dans ces années 70, même si les États-Unis enverront des hommes sur la Lune. L'URSS apparaît en position de force dans ce bras de fer idéologique que les deux grands prolongent dans le monde entier avec des guerres et des alliés qu'ils soutiennent selon leurs intérêts réciproques en Afrique ou en Asie. Les Américains sont empêtrés au Vietnam. Richard Nixon, le président américain, éclaboussé dans le scandale des écoutes du Watergate. Leonid Brejnev peut donc rayonner. Il profite de cette situation et son pays, l'URSS, est légal alors de par sa puissance du géant américain en termes d'armement, d'armes nucléaires notamment.
On comprend que désormais quelque chose est changé dans la nature des relations entre Moscou et Washington. Fondamentalement, l'Amérique n'est plus considérée de manière péjorative, mais avec un sentiment de respect à la mesure de sa puissance industrielle et des espérances que l'élargissement de la coopération soviéto-américaine suscite ici.
Durant cette période, durant ces années 70, l'URSS n'est donc pas infréquentable, malgré ce régime communiste pur et dur. Pas infréquentable, mais incontournable. La France entretient de bons rapports, certes teintés de méfiance, mais de bons rapports avec l'Union soviétique. Les présidents Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing, qui sont pourtant de droite, qui n'ont aucune accointance communiste, eh bien, ils ont ainsi eu régulièrement des échanges, des rencontres avec Léonid Brejnev, malgré la nature du régime soviétique, malgré cette emprise de l'URSS sur tout le bloc de l'Est, comme la répression du printemps de Prague, les velléités d'ouverture de la Tchécoslovaquie, réprimées par les chars soviétiques en 1968, l'ont montré. Tout cela n'a pas empêché la France d'entretenir de très bons rapports avec Léonid Brejnev.
Dans cette œuvre de décrispation internationale, la France avait une bonne longueur d'avance. Dès 1970, Georges Pompidou était à Moscou pour y poursuivre, selon le triptyque gaullien, la détente, l'entente et la coopération. Des rapports fréquents, suivis, presque institutionnels, s'amorçaient alors entre le Kremlin et l'Élysée. Et jusqu'en 1979, on allait voir les présidents Pompidou puis Giscard d'Estaing se rendre régulièrement en URSS et le secrétaire général soviétique se rendre non moins régulièrement au château de Rambouillet. Le commerce franco-soviétique doublait tous les 5 ans. Paris et Moscou s'étaient mis à coopérer dans bien des domaines, y compris ceux de la recherche nucléaire et de la recherche spatiale. À la fin de 1979, ces bons rapports franco-soviétiques étaient brutalement refroidis par l'invasion de l'Afghanistan qui sonnait en même temps le glas de la détente. On n'a plus revu depuis Léonid Brejnev à Paris, alors qu'en 6 ans, il y était venu 4 fois.
Cet apogée de l'Union soviétique, les années 70, les années Brejnev, tout cela, en effet, va être stoppé net par la décision de l'URSS d'intervenir militairement en Afghanistan, pays souverain dont le régime communiste était impopulaire. Les Occidentaux ont considéré que les Soviétiques et Léonid Brejnev avaient franchi la ligne jaune. La coopération Ouest-Est s'est alors arrêtée, la fin de la détente, les prémices de ce qui allait précipiter 10 ans plus tard la chute du régime communiste de Moscou. Car en interne, tout n'allait pas aussi bien qu'en apparence en Union soviétique. Derrière la vitrine des programmes militaires et des programmes spatiaux, cette industrie lourde, l'économie réelle, elle, montrait dès le milieu des années 70 ses limites. L'échec de l'agriculture, l'URSS contrainte d'importer du blé pour nourrir sa population, un appauvrissement progressif dans les villes et les campagnes, problème de logement, problème de pouvoir d'achat. La fin du règne de Léonid Brejnev a été des plus compliquées. L'homme de la détente s'est progressivement replié sur lui-même et sur sa garde rapprochée, le signe d'un régime qui allait vite arriver à bout de souffle.
Autre objectif de Léonid Brejnev, la stabilité et la continuité du pouvoir. Pour cela, un moyen, s'entourer de fidèles lieutenants, placés au poste clé et tenir les cadres en leur garantissant leur carrière. C'est ainsi que Léonid Brejnev a fait venir près de lui et a placé ses amis d'enfance et une partie de sa famille. La moyenne d'âge des dirigeants est très élevée, ils ne paraissent pas pressés d'assurer la relève. Le clan Brejnev tient solidement l'appareil du parti et donc celui de l'État, qui résiste ainsi aux manœuvres et aux rivalités des différentes factions. Mais l'absence de remous politique s'accompagne d'un immobilisme économique et intellectuel stérilisant. Au mois de mars 81, devant le congrès du PCUS, Léonid Brejnev l'a reconnu en déclarant « Nous n'avons pas su maîtriser les mécanismes de l'économie moderne ».
Un constat d'échec, Léonid Brejnev, en ce début des années 80, est fatigué, probablement malade depuis de nombreux mois, avant de s'éteindre donc le 10 novembre 1982. Après sa mort, s'ouvrira en URSS une période de transition avec des dirigeants âgés qui prendront le relais, mais n'y resteront pas longtemps. Youri Andropov, puis Constantin Tchernenko, une sorte de paralysie au sommet du pouvoir. Il faudra attendre que Mikhail Gorbatchev soit porté à la tête du pays en 1985 pour que l'URSS rebondisse, même si sa volonté d'ouverture, ouverture vers l'extérieur, ouverture à l'intérieur même de l'URSS, la perestroïka, transformation de l'intérieur, que cette volonté se heurte à toutes les rigidités du système, la fin d'un système, l'impossibilité de réformer de l'intérieur le système communiste verrouillé depuis des années. Cette lente agonie, elle aura commencé, nous l'avons dit, dès la fin des années 70, avec les derniers mois, dernières années au pouvoir de Léonid Brejnev.
Fatigué, oui. Le Brejnev des années 80 ne ressemble plus guère au fringant chasseur des années 60. Lorsque les devoirs de sa charge l'amènent à l'étranger, on le voit se forçant visiblement pour participer aux cérémonies officielles. La démarche pénible, le souffle court. Il faut alléger ses programmes à l'extrême, espacer ses rendez-vous. Visiblement affaibli par une maladie sur laquelle Moscou observe un silence total. Il continue d'accumuler les titres et les dignités. Il est chef de l'État, secrétaire général du parti, maréchal de l'Union soviétique, président du Conseil de défense, c'est-à-dire chef suprême des armées. Ses ouvrages sont publiés à 65 millions d'exemplaires. La presse l'entoure d'un véritable culte. Il est couvert d'hommages et de louanges. Mais l'on chuchote qu'il ne peut travailler que 2 ou 3 jours par semaine, et l'on se demande si toute cette puissance, il l'exerce vraiment ou s'il est le porte-parole d'une direction plus collégiale qu'il ne semble, devenue peut-être un symbole dans un pays qui a fait du symbole un moyen de gouvernement.
Rétrospective réalisée avec les archives de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Êtes-vous inscrit au concours national des langues SBS 2018? Le concours est ouvert à toute personne apprenant une nouvelle langue jusqu'au 18 novembre. Pour plus d'informations, visitez sbs.com.au/nlc18.